Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
3, 2, 1. Denis Gravel qui est en studio, qui a de l'air en forme.
Ben écoute, faut être fort, hein, le pays est faible.
Oui, plus que Véro, plus que Véro hier.
Véro est mieux aujourd'hui. Là.
Et là, Audrey Pinchot, ce matin, vers la fin de l'émission, a commencé à manquer de voix. Je sais pas qu'est-ce que tu leur fais, là.
c'est peut-être le studio qui a un effet.
Ça se peut que vous soyez encore deux ce soir.
Mais il fait froid, ça l'aidera pas, là, ici, là.
Ah, on a toutes les voix fragiles dans le retour. Moi, après 4 heures, hier, je commençais à en manquer, là. Puis Audrey, ça a été pareil. Première circulation, la voix a commencé à faillir.
Mais elle est arrivée en onde dans l'open mic hier avec Yannick, puis elle était éraillée. Là. Oui, j'ai pris les premières minutes, je me suis dit, elle n'a pas beaucoup parlé pendant ses vacances ou trop.
Si elle peut arrêter de chanter pendant les annonces, ça va se donner une chance.
Il y a ça, il y a ça. Mais toi, tu avais eu problème de voix aussi dans le temps.
Écoute, moi, j'avais fait... On s'était fait un band, tu te souviens, ouais. À la station de radio où on travaillait avant, puis moi, j'allais pratiquer à toutes les semaines. Puis moi, on m'avait pas expliqué que... Quand tu te pratiques à chanter et que tu n'as pas de voix, tu n'as pas besoin de pousser à toutes les fois comme si tu étais en show ou whatever. Uh-huh. Puis ben, je me suis scrappé les cordes vocales en ayant un band pendant 6 mois. Et avant que la qualité vocale revienne, ça a pris 8 mois. J'ai été 8 mois à peu près à parler de la gorge. Puis tu sais, t'as pas l'opportunité, on fait pas pitié, 0-0, là. Mais des cordes vocales, il y a juste une affaire qui fait, puis c'est un repos. Puis moi, ça me prenait un repos d'au moins une semaine, puis le temps d'avoir cette semaine-là, ben ça a pris un 8 mois.
Mais toi, tu t'es inventé, là, être chanteur à un moment donné, là.
J'aime ça. Mais j'aime ça, faire de la musique.
Il chante en sacrament.
Arrête,
oui, il est super
moi,
bon.
Moi, j'ai entendu chanter la tune « Son of a bitch », là.
Oui, oui, oui. Hey, c'était le fun, ça.
Non, non, non. Sérieux, c'était assez mébrant.
Je m'ennuie énormément. On avait un band là, avec du monde que vous connaissez peut-être si vous écoutez à la radio un peu. Jean-Claude,
Buzutil,
Frank, Doom Gagnon, notre technicien dans le temps, Brun. On avait du fun. Pour vrai, ça a vraiment été, moi, une belle période de vie là, où j'avais besoin d'un exutoire. Tu sais, à un moment donné, tu as le goût de faire ça dans la vie puis tu te trouves pas bien bon. Puis à un moment donné, c'est comme, tu arrives à l'âge où tu dis, ben fuck it, m'a le faire pareil, tu sais. Ouais. Ben, je suis content de l'avoir fait, puis de le faire encore une fois de
mais
temps en temps.
Tu as toujours eu une bonne voix, puis c'est sûr, comme tu l'as dit, il y a des gens qui nous écoutent qui font de la construction, qui ont mal au dos, qui ont des tendinites partout, puis ils nous entendent se plaindre de notre voix. Ouais. En même temps, c'est l'appareil qu'on se sert pour travailler.
Le pire, c'est que moi, je m'en sers très mal. Hein. Audrey va voir une coach de voix, puis sa coach de voix a écouté l'émission pendant une couple de jours, puis tu sais quoi la première recommandation qu'elle a faite à Audrey? Tout ce que ton animateur fait, là, faut pas que tu le fasses.
Okay, ça ressemble à quoi?
Je pousse trop. Okay? Oui, la première affaire, c'est que je pousse trop.
Je l'ai déjà dit, quand on travaillait dans notre autre vie radio, là, mon bureau, il était comme l'autre bord de la porte. J'entendais personne sauf toi.
Je suis un gars gêné. Fait que j'ai 2 volumes. J'ai le mute, puis j'ai le volume dans le fond. Puis on dirait que j'ai jamais trouvé vraiment l'entre-deux. Puis c'est ça, j'ai pas de retenue, j'ai pas une grande puissance vocale. Ça fait que je suis tout le temps dans le tapis avec une faiblesse. Ça fait que la voix devient raillée. Je prends pas mes respires aux bonnes places ou j'en prends tout simplement pas. Je suis tout le temps au bout de ma chaîne.
Mais c'est tellement tough parce qu'Audrey m'avait, quand j'ai perdu la voix cette année, elle m'avait appelé et elle me faisait faire comme des exercices à distance.
Pas juste, même.
Ouais, mais pas juste
font
ça.
Faire le bateau, pas de poitrine, tu sais, juste le bateau dans le vide.
La paille dans la bouche, puis là, faut que tu souffles là-dedans. Ah, puis la façon de parler,
j'ai tout fait ça.
C'est réapprendre à marcher. Ouais. C'est comme si, du jour au lendemain, tu as toujours parlé, ça a toujours été instinctif. Puis là, quelqu'un t'arrive en disant non, tout ce que tu fais, il faut recommencer.
Puis la moitié de la communication, c'est la respiration. Fait que quand tu n'as pas appris à respirer correctement, puis la respiration, c'est très instinctif, tu sais. Tu respires comme tu respires. Moi, je respire quand j'ai le temps. Je le remarque à cette heure-là. Tu sais, je suis en train de manger, je respire pas. Fait que j'ai plus tendance à m'étouffer que d'autres. J'ai manqué mon rire, d'ailleurs, je vous l'ai déjà compté. Ouais. Puis quand je parle, c'est pareil. Tant que j'ai de quoi à dire, je reprends pas mon souffle. Fait que j'arrive à la fin des phrases, puis je suis en train de m'essouffler.
Mais mal faire la radio, on est tous un peu sur le bout de notre chaise tout le temps. Parce que
terrible.
Là, on est en conversation, on est dedans. Fait que quand il y a un trou, on embarque. Puis là, ça ne nous laisse pas le temps de respirer. C'est peut-être pour ça que...
Avez-vous déjà essayé...
Peut-être tu viens de respirer, bravo.
Avez-vous déjà essayé de faire ce que Pierre Aude fait? Tu sais, mettons, mettre une game de hockey, là, puis d'y aller sans perdre votre souffle. De parler de Gallagher, qui a la rondelle, s'en va en fond de zone, passe à Slavkovski, puis là, tu continues, puis sans t'enfarger. Puis c'est ça la magie, je trouve, de ce que Pierrot fait, puis de ce que d'autres font aussi. Le gars qui le fait à radio, c'est qui? Tu sais, il y a un débit très rapide. T'as l'impression qu'il reprend jamais son souffle, mais t'as jamais l'impression qu'il est au bout de son souffle. Ça, c'est un truc que je comprends pas encore.
Pour ce qui est de Pierre, effectivement, il n'y a pas grand monde qui serait capable de faire la même chose que Pierre, mais il est assisté de l'image. Pour ce qui est de Martin McGuire, il parle extrêmement vite, puis il doit te faire voir le jeu, puis il parle encore plus vite
que
Pierre.
C'est deux façons radicalement différentes de faire de la description, puis en passant, j'ai beaucoup d'admiration pour les deux.
Mais ils sont complètement fous. Honnêtement, tu vois rien. Eux, ils connaissent les numéros par cœur, savent exactement la prononciation de chaque joueur. Il faut qu'ils connaissent aussi sur le joueur, parce que s'il y a des temps morts, il faut qu'ils embarquent sur quelque chose, pas juste...
c'est les gars les plus loin dans l'aréna, parce que moi, c'est un des trucs où j'ai été flabbergasté quand j'ai vu Pierre travailler de proche. Moi, j'étais convaincu qu'il y avait des écrans. Un écran, plein d'écrans.
Ils reconnaissent le coup de patin, ils regardent la grosseur des joueurs.
Ça va vite, là.
Les visières aussi, la longueur des bâtons. Les gars ont des trucs, là. Tu penses tout le temps à ça.
Et dans le cas de Pierre, il y a une discipline de travail extraordinaire qui fait qu'il va réviser les alignements dans l'avion avant chaque match, les trios, les dernières actualités. Fait que juste avant le match, il sait déjà là, tu sais, l'ordre des trios. Fait qu'il n'y a pas besoin de regarder sa glace, puis il va savoir, tu sais, il va changer, il va mettre ce ligne-là, ça va être un tel, puis il a tout appris prononciation, puis tabarnouche.
Denis, le mot du jour, 76 194,87 en obligations municipales par année. C'est ce qu'on voulait charger à l'épicerie J.A. Moisan, qui est une épicerie fine.
C'est l'enfer.
Avec des produits du terroir. Une épicerie qui est là depuis des années. Je pense que ça fait plus de quoi? Ça...
Plus de 100 ans.
154 ans, précisément. Et on nous dit que maintenant, avec les taxes qui augmentent, c'est plus viable. Puis ce qui est surprenant, je ne sais pas si tu l'as kické sur ce point-là dans l'article, là, mais c'est que la clientèle de J.A. Moisan, c'est pas les gens de chez nous, c'est les touristes.
Donc, des gens qui sont à l'hôtel puis qui veulent se faire une petite bouffe puis ramasser quelque chose vite sur le fly. Okay. C'est bizarre, hein?
Mais oui, c'est bizarre. Mais moi, j'y allais chez J.A. Moisan parce qu'il n'y en avait pas juste sur la rue Saint-Jean. Là. Maintenant, il reste juste J.A. Moisan sur la rue Saint-Jean, mais il y en avait un à Beauport dans le temps sur la rue Monseigneur. C'était-tu Monseigneur? Sur l'avenue Royale.
Sur l'avenue Royale, oui.
Sur l'avenue Royale. Il était dans le bas de la côte de Lisieux.
Mais la côte de Lisieux, déjà,
Point Boulevard Royal, puis côte de Lisieux.
Boulevard Royal.
C'est ça. Puis il était là aussi, mais je me suis dit, attends un peu, là. C'est parce que là, eux autres, on leur charge 76 000 $ de taxes. C'est impossible que les propriétaires de cette épicerie-là puissent rentrer dans leur argent.
Tu sais, on dirait, c'est plate à dire, mais on dirait qu'ils ont fait la gaffe de rénover. T'sais, et en faisant des rénovations, ça a fait en sorte que leur compte de taxes municipales a explosé. Puis en même temps, bien... T'as une épicerie centenaire, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses des rénovations. Ça devrait être encadré, ça devrait être aidé. Là, on a nuit à cette business-là.
En rénovant.
De façon un peu gênante, alors que je pense que les propriétaires ont juste voulu être responsables avec la bâtisse qu'il y avait entre les mains.
Tu devrais être content, là, quand tu es à la ville, d'avoir un petit peu de vie comme ça, une offre quelconque dans un secteur où tu peux marcher pour faire tes commissions. Je parlais avec un gars en affaires, OK, dans le temps des fêtes, là. Puis lui, il y a un genre de shop du type, OK? Puis ce qu'il dit, c'est qu'on n'est même pas régulé. Il dit, il y a deux façons de voir les choses. Quand tu régules, entre autres, les ordures. Si moi, je vends beaucoup plus que l'autre, je vais avoir beaucoup plus d'ordures. Mm-hmm. Fait qu'est-ce qu'on pourrait peut-être me charger selon la quantité d'ordures que j'ai? Parce que ça veut dire que j'ai vendu en conséquence. Tandis qu'un plus petit commerce, si tu lui donnes la même facture que celle que je reçois, mais qui ne fait pas le même nombre d'argent, bien, c'est un peu complexe de gérer en question les ordures. L'autre affaire, il dit, si tu en vas partout dans le monde, il dit, l'eau que tu consommes dans ta machine à glace, puis tu sais, nous autres, ça coûte rien. Ils pourraient l'augmenter un petit peu plus. Fait que diviser les dépenses, ça serait une charge moins lourde sur certains entrepreneurs, commerçants, mais ça serait disparate, puis on serait capable justement d'aller chercher de l'argent sans saigner des commerçants dans certains des secteurs dans lesquels ils doivent payer des taxes.
Mais est-ce qu'il y a un facteur qui a fait très mal à cette épicerie-là que nous, on ne contrôle pas? C'est la réalité qui change. Je veux dire, tu sais, les résidents du secteur, moi, ce qu'on me dit, c'est que de plus en plus, c'est des gens qui font livrer leur épicerie. Tu sais, parce que le service est maintenant offert. Là. Puis quand tu prends un abonnement annuel, bien, des fois, tu vas avoir des rabais supplémentaires. Tu n'auras pas d'augmentation. Tu le fais une fois, ça te coûte une beurrée. Tu le fais de façon régulière, puis le système semble bien fonctionner.
Ça te coûte 12 pièces par mois dans une épicerie, te faire livrer régulièrement ton épicerie.
c'est sûr que tu perds de la clientèle écoute, quand tu n'es pas en mesure de suivre.
Je te fais rentrer un peu dans ma vie, mais quand je vais chez Costco, là, ouais. ça me fait chier de ressortir de là puis de marcher pendant 2-3 minutes au grand fret avec mes affaires, ah, pas oui. de sac. Puis là, des fois, il n'y a pas de boîte.
C'est vrai.
Fait que là, tu as tout ton stock, la grosse neige qui te tombe dessus, ça me fait chier. Fait que si tu es en plein hiver, au mois de janvier, février, mars, où il fait extrêmement froid, tu vas-tu revenir de l'épicerie, toi, marcher 10 minutes et tout ça? Je suis pas sûr.
Moi, je commence à être un vieux, là. Puis moi, une épicerie, tu vas faire ça à l'épicerie. Ma blonde se fait livrer l'épicerie des fois parce qu'elle est abonnée, puis elle a un char.
C'est ça.
Des fois, elle fait pas fret. Il y a une épicerie genre à deux coins de rue de chez nous, mais elle se fait livrer l'épicerie pareil. Puis moi, à chaque fois, je viens bleu marin. Là.
À Noël, je l'ai fait, là, puis j'ai tellement aimé ça. Je me suis pas tapé tout le monde en panique à l'épicerie, là, qui ont oublié 3-4 affaires.
Ouais.
C'est arrivé, j'ai pris la plage horaire la moins chère, c'était entre 6h45 puis 8h. De toute manière, ma fille était là, fait qu'elle, ça se lève, ça a plus de bon sens. Ça cogne, ça te dépose ça, t'es encore en pyjama, t'as ton café chaud.
C'est ça, t'as même pas à avoir un contact avec le gars qui vient de porter ton épicerie. Il met un sac à l'entrée, oui. puis t'as le ding-ding.
T'as écrit Joyeux Noël dans la porte, ouais. c'est tout.
Ça, ouais. ça fait mal à un commerce comme J.A. Moisan, c'est sûr, là, t'sais.
Tu sais, eux, ils disent que, mettons, quelqu'un qui veut racheter le commerce ou louer le local, parce que c'est le local qui est à louer maintenant. Là. D'ailleurs, il va y avoir des bons deals. On parle de 25% sur tous les produits chez J.A. Moisan jusqu'à la fin du mois de janvier, de ce que je comprends. Eux, ils disent, ben, s'il y a quelqu'un qui veut reprendre ça, faire des plats préparer, exemple, ça pourrait être une belle affaire, mais 76 000 piastres de taxes. Tu sais, tu commences ton année avec 76 000 piastres de taxes, là.
C'est cruel. C'est cruel. Puis, tu sais, on parle de ramener la vie, puis je sais que Régis Labeaume m'en parlait beaucoup de ça, le ramener du citoyen dans le vieux Québec, ouais. là, du vrai monde, entre guillemets.
Pas juste des Airbnb.
Qui n'est pas du tourisme puis du Airbnb. Peut-être qu'en faisant des concessions pour garder ce genre de commerce de proximité-là, ben on va peut-être aider tout le monde. Mais je sais qu'il y a des commerçants qui évitent comme la peste maintenant le haut de la ville parce que, justement, la valeur des bâtiments fait en sorte que tu te ruines juste à payer des taxes.
Des camionneurs qui ne veulent plus aller en ville. Mm. C'était vrai beaucoup il y a de ça quelques années à Montréal. Puis là, ça l'est encore plus. Mais des camionneurs qui disent aux propriétaires de l'entreprise de camionnage, moi, Montréal, c'est non.
Mm-hmm.
Ils ne veulent plus aller livrer.
No way.
Tellement qu'ils pensent à charger des fois un genre de surtaxe. Là. Si je vais livrer à Montréal, c'est 200$ de plus.
Okay. Ben, c'est logique.
418-971-1021, c'est des camionneurs qui nous écoutent, qui ont entendu parler de ça. Des camionneurs qui refusent d'aller à Montréal et qui refusent maintenant d'aller en Haute-Ville de Québec parce qu'ils se font tout le temps chaler. Il n'y a jamais de place pour sortir tout le stock qu'ils ont à sortir de la remorque en arrière. T'sais, moi, je faisais... j'avais 14 ans, 15 ans, je faisais les vidanges au Ronald McDonald's à la rue Saint-Jean. OK? T'as-tu remarqué qu'il n'y avait jamais de gros bac sur la rue Saint-Jean pour mettre les sacs de vidange?
Bon, ouais.
C'est un compacteur.
OK.
Le McDo sur la rue Saint-Jean est spécial, il est sur 3-4 étages.
Oui.
Puis les employés mettent les poubelles dans une chute à déchets.
OK.
Puis en bas, t'avais Tim Marceau qui était là.
Dans le sous-sol.
Qui pesait sur le piton vert pour faire compacter tous ces sacs-là.
Bravo.
Hey, tu viens de répondre à une question que je me suis toujours posée. Ces commerces en ville, là, je trouve ça fascinant.
J'étais en bas, j'avais mon bac gris, j'ouvrais mon bac, je mettais les motons qui tombaient dans ma face avec le jus qui tombait dans ma face, je fermais le bac.
Vous écoutez comment c'est fait avec Yannick Marceau.
Puis j'entreposais ça, puis après ça, à 5h du matin,
sortait ça.
On savait que les gars de la ville, c'était entendu avec le McDo puis la ville, là, on savait que les gars de la ville allaient passer spécialement pour le McDo. Fait qu'on sortait tous les bacs avec un gros genre de convoyeur.
Puis ils venaient chercher ça one shot.
Tu gagnais ton salaire.
Ben, j'avais un repas gratuit, après ça, j'allais à l'école. Je sentais la marde.
Ah, c'est sûr, imagine tes voisins de classe.
Ton nez, tu scrapes depuis ce temps-là, toi?
Non? C'est épouvantable. Mais j'étais chargé de changer les couches de mes enfants en raison de ça. Mais c'est ça. Après ça, les gars, ils mettaient ça directement dans le camion vidange. Puis après ça, tu devais laver tous ces bacs-là.
Okay.
Mais c'était compliqué pour les gars de vidange. Là.
Ben, c'est sûr.
Fait que imagine-toi aujourd'hui, là, plusieurs années plus tard, presque 30 ans plus tard, à quel point c'est complexe pour les compagnies de livraison de meubles.
Mm-hmm.
Tanguay qui arrive, là, c'est à la rue Saint-Jean qui veut livrer un meuble. Là. Je t'annonce que le livreur, pauvre livreur, il se fait envoyer chier par tous les véhicules qui veulent passer.
Ah, il n'y a pas de fun.
Ça ne date pas d'hier. Je veux dire, ça a toujours été difficile. Mais là, le problème, c'est qu'en plus des voyages à l'étranger pour aller voir ce qui se fait en Europe, tout ça, on ne rapporte pas nécessairement ce qui nous convient le mieux. Puis je vais toujours me souvenir, là, à Paris, quand j'ai été là, il y a un an, on part en taxi. Puis le taxi, ben c'est pas comme un Uber, là. Il compte au nombre de secondes que t'es dans le taxi puis kilomètres, là. Puis on arrive face à, justement, une livraison qui bloque la rue au complet. Mais eux autres, ils ont comme un genre d'habitude que c'est ça. quand c'est ça, c'est ça. Fait que si t'es pogné en arrière dans le taxi, tu vas payer le montage.
Tu es en train de dire que t'es tombé sur des Français qui se sont pas engueulés à plein volume en pleine rue?
Je te le jure.
Ah, Barneau, j'ai été chanceux.
J'ai sorti mon sel à un moment donné parce que ça faisait 56 minutes qu'on était dans l'auto parce que le gars, il s'en foutait raide, le livreur, lui.
Mais t'avais pas le goût de le faire, toi? Hé, hey, connard, qu'est-ce que tu fous, là? On passe que dalle!
Écoute, le moment j'ai dit au chauffeur, vous dites rien, vous reculez pas, vous voulez pas qu'on aille ailleurs, vous allez continuer avec le compteur, là, finalement. Il a dit, vous voulez enlever le compteur? Il a dû faire un prix fixe, merci beaucoup, monsieur.
Après 40 minutes d'attente, oh, c'est bon, moi, t'as l'enlevé.
Puis des beaux yeux dans le rétroviseur, ou genre une petite coche qui allait sauter.
Tu as besoin d'argent?
Comme dans le vis gratton.
Goût de faire un vin, vite.
Dans le char en arrière, pendant qu'on attend.
En arrière, un peu d'alcool.
On a fait reculer tout le monde sur une artère principale, parce que ouais. C'était long, là. Mais jamais se sont obstinés avec le livre. Oh, c'est pas ça à Québec. Tu peux pas revenir avec des idées du genre c'est juste rendu des one-way, ouais. Rendu accessible à certaines personnes en piéton ou en chaise roulante.
Mais c'est là que tu vois les limites des beaux concepts, là, parce que le livreur, ça devient comme l'ennemi numéro un du vivre
il
ensemble.
Il fait juste sa job.
Mais si tu veux manger ensemble, faut que le livreur à m'amener vienne t'emmener du stock.
S'il y a 75 caisses, ben c'est 75 caisses.
C'est tout.
Il y a un livreur de Tanguay qui nous écrit, il dit ton histoire de Tanguay sur Saint-Jean, c'est 100% ça.
Ben, j'imagine.
Tu vas livrer là, puis tu te fais envoyer chier alors que le gars, il fait juste sa job.
Ouais.
Les gens ont plus de patience, puis c'est de plus en plus compliqué pour les camions de livraison de passer dans les villes comme Montréal à certains endroits, puis à Québec, en Haute-Ville, que les livreurs ne veulent même plus y aller. Puis à un moment donné, ils vont charger plus cher pour aller livrer là.
J'ai livré pendant 3 ans dans le Vieux-Québec, en Haute-Ville, en classe 5. Imagine un classe 3. Je me faisais regarder de travers, envoyer chier au moins 2 fois par jour. Pas de place pour se parquer, pas de place pour ouvrir la rampe. De la pure merde.
Mais c'est vrai que c'est tout un défi pour des villes qui ont des centaines d'années d'existence, qui ont été bâties pour du plus petit, de continuer de faire de la place au plus gros, puis d'assurer, parce que si tu fais pas ça, puis manifestement, ben on a eu de la misère avec la chaîne dans les dernières années. C'est pas pour rien qu'il y a un paquet de résidents qui ont juste dit le Vieux-Québec, nous autres, on abandonne ça, on laisse ça aux touristes. Si on a des vieux buildings, on attend que le vent les fasse tomber. Si on a des buildings qui tiennent debout, ben on les transforme en Airbnb, puis on essaye de faire la pièce avec ça, parce que de façon quotidienne, le Vieux-Québec, c'est dur de vivre dedans. T'sais.
Je me rappelle pas si c'est exactement ça, mais un auditeur qui se souvient, lui, avoir entendu Régis Labombe dire qu'il reste seulement 30 % de résidents de la ville dans le Vieux-Québec.
C'est possible. C'est bien possible.
Pas probablement. En plus, s'il disait ça à l'époque, Régis Labombe, ça doit être pire maintenant.
Je serais pas surpris. Il y a plein de condos qui sont pratiquement pas utilisés, qui appartiennent à des Chinois ou encore à des Américains.
Là, Elvis Gratton sort de ce corps.
Puis il y a du Airbnb aussi qui se fait illégal comme légal. Ouais. Hey, je pensais pas te parler de ça en début d'année, mais j'ai pas le choix, Denis. Le tramway, qu'est-ce qui se passe avec Justin Trudeau? Là?
Là,
Justin Trudeau qui s'en va.
Les gens qui souhaitent que le tramway n'existe pas, là. Probablement que vous avez repris espoir, parce que là, on est d'un no man's land au Canada jusqu'au mois de mars, et les garanties qui semblaient en place, puis déjà, on questionnait nous autres. Ouais, mais vous prenez ça pour acquis, là.
Jean-Yves Duclos m'a mentionné que l'argent était réservé dans un compte à part.
Ça se peut-tu que ce soit pas la priorité numéro un d'un Canada en perdition présentement, puis tu sais, il y a une autre variable aussi, c'est que le projet de tramway a changé combien de fois dans les 10 dernières années? Au moins 3 fois?
Ouais.
Peut-être 4? Le coût total du tramway, lui, a changé combien de fois? 5 fois? Peut-être 6? Qu'est-ce qui empêcherait, hypothétiquement, un nouveau premier ministre, appelons-le Pierre Poilievre, de dire « Ah ouais, mais moi, le gouvernement s'est engagé à payer la version A, vous êtes rendu à version D, c'est bien une valeur, mais nous autres, on n'a pas une scène pour ça. » Puis c'est un point qui pourrait se défendre. Mais le tramway, c'est un peu comme le troisième lien. T'as l'impression que les gens qui le poussent, ils le poussent en bougonnant. T'sais, t'as un flot que t'envoies faire sa chambre, là. Il fait tout ça avec entrain.
Jamais.
Tu sais, quand il est obligé, là...
Si je dis 5$, l'écho...
Ouais, ouais, pis, ouais, mais il va quand même te dire « Ah, c'est flemme faire sa chambre, puis tout ça. Ouais. » Pis, les gens qui poussent ces projets-là, présentement, je trouve qu'ils ont une attitude très adolescente. T'sais, on le pousse pour le pousser, mais ça nous tente pas. Et dès qu'on va avoir une opportunité de vous dire « Hey, c'est de valeur, là, ça marchait, mais ça marche plus », j'ai l'impression que tout le monde va sauter là-dessus. Puis ces projets-là, pour moi, sont encore dans le vide. Le troisième lien, évidemment, parce que la CAQ n'est pas trop stable, mais le tramway, avec ce qui se passe présentement à Ottawa, l'argent est réservé. Hey, bonne chance, là. Avec l'année qu'on va vivre au fédéral, avec les chiffres qu'on a vus sur l'endettement, il n'y a rien de coulé dans le béton. Puis même les ardents défenseurs du tramway le savent puis s'inquiètent. C'est pas pour rien qu'il y a du monde qui sont sortis en panique hier après-midi. Là. Mm-hmm. Les gens de la Chambre de commerce. Là. Hey, ça prend une entente. Ouais, mais là, le Canada, il y a d'autres choses à régler. Là.
Parce que fin 2024, il y a le maire Bruno Marchand qui est sorti en disant il y a de l'argent qui va tomber sur Québec, il va y avoir des entreprises qui vont travailler, tout le monde va bénéficier de ça. Puis je regardais une citation de Karine Gagnon dans le Journal de Québec aujourd'hui où elle mentionnait que si on ne prend pas cet argent-là qui est disponible pour le tramway, c'est une autre ville qui va en bénéficier. Cette façon de gérer notre argent me tue. Là.
Mais ça, c'est l'argument la bombe. Hein? Oui. Combien de fois on s'est fait servir cet argument-là? Il faut prendre l'argent parce que sans ça, quelqu'un d'autre va l'avoir. Ouais, mais cet argent-là, présentement, êtes-vous sûr qu'il existe? Puis les ministres qui nous garantissent ça, c'est-tu des gens qui ont du pouvoir présentement à Ottawa? Est-ce que c'est des gens qui se sont assurés que cet argent-là, à la fin de l'année, parce qu'on ne sait pas si ça va être ce printemps ou cet automne, mais à la fin de l'année, il y aura vraisemblablement un changement de gouvernement et assurément un changement de premier ministre. Est-ce qu'on s'assure que cet argent-là est là puis qu'il est safe? Il n'y a rien de moins certain que ouais. ça.
Mais c'est le fait de dépenser parce que l'argent est disponible.
Ah, mais ça, t'sais, écoute...
Je reviens avec Denis Lebel, qui était venu dans mon ancienne vie radio. Denis Lebel, il était un super ministre conservateur. C'était le responsable du Québec à l'époque pour Stephen Harper. Puis je parlais de l'anneau de glace. Puis je disais, mais combien de personnes qui vont fréquenter l'anneau de glace mm-hmm. pour tout l'argent qu'on va donner là? Il dit, pour nous, c'est pas important. Pour nous, c'est on a l'argent, l'argent est disponible. Ouais. Puis si les villes en ont besoin, ben ils nous le mentionnent puis on transfère cet argent-là. Je trouve ça complètement débile que le fédéral à qui on envoie notre argent se pose pas plus de questions à savoir ça va être quoi l'utilité. N'avez-vous vraiment de besoin?
Puis c'est une okay. mentalité qui est étendue à grandeur. Je veux dire, tous les ministères fonctionnent comme ça. Il y a plein de PME subventionnées qui fonctionnent exactement de la même façon. La fin du budget approche, il faut se trouver des achats parce qu'il reste de l'argent dans le compte. Puis si on veut avoir de l'argent l'année prochaine, ben il faut gaspiller.
Il faut le dépenser au complet.
Oui, c'est plus de l'investissement, c'est de la gaspille puis de la dépense.
Puis là, on a Karine qui dit, ben là, l'argent est disponible présentement. On est aussi bien de la prendre parce que sinon, c'est une autre ville qui va en bénéficier.
L'argent est disponible depuis combien d'années, là? Ça se peut qu'on manque la fenêtre d'opportunité puis que l'argent soit juste... plus disponible quand quelqu'un va dire, par exemple, « Bon, ben la priorité, là, c'est d'essayer de remplir le trou dans lequel Justin Trudeau nous a foutus et tout le reste est on hold. » Un premier ministre peut faire ça et va peut-être faire ça dans la prochaine année.
Il y a encore des auditeurs qui nous écrivent à ce sujet-là au 418-971-1021. Comment ça que le tramway ne se rend pas à l'aéroport? C'est une maudite bonne question.
Ben oui.
Comment ça qu'il ne se rend pas au centre Vidéotron? Comment ça qu'il ne se rend pas dans le secteur de Place Fleur-de-Lys, de Place Laurier, tu sais.
On n'a pas l'audace et la vision de faire quelque chose d'articulé à Québec. Si on nous avait présenté ça dès le départ, avec un projet où t'as un troisième lien entre les deux rives, où t'as un transport en commun qui est articulé et dynamique entre les deux rives, si tu crées un lien d'est en ouest qui lie l'aéroport au reste de la ville de Québec, on aurait peut-être eu quelque chose d'excessivement coûteux, puis probablement qu'on aurait chiolé pareil parce qu'on fait de la radio après tout, mais au total tout, je pense que les gens auraient été plus enclins à embarquer dans un tout où il y a un petit quelque chose qui les appelle que de regarder ce qu'on improvise à la pièce au gré du vent. Ah, le tramway, là, il est nord-sud. Ouais, mais moi, le tramway, il est est-ouest. Ouais, mais moi, le gouvernement, je te reprends le tramway puis je te le remets nord-sud. Ouais, mais tabarnouche, là. On n'est même pas capable de s'entendre sur le sens de ce tramway-là après 10 ans à s'ostiner sur des niaiseries.
T'sais. Mais l'aéroport devrait être desservi.
Ben, qu'un.
La gare d'autobus devrait être desservie. Mm-hmm. Tu sais, tous les endroits où il y a du monde, ça devrait être desservi.
Ils veulent que ce soit fluide. Faut ouais. que tu le mettes à des endroits où ça va être fluide. Ouais. Même Beauport crie à l'aide là, depuis des années. Ben, c'est de la phase 3, ça, je pense. Hey! Phase 3, on est mort. Je veux juste vous le dire, les gars, là, on est mort.
Peut-être bien qu'on va mourir avant phase 1, parce que comme
c'est.
Je sais
même pas si mes propres.
Je sais que les choses changent, puis que, tu sais, faut accepter les nouvelles générations, puis les nouvelles questions. Mais,
oui.
Tu sais, quand j'étais jeune, si tu avais besoin du service d'autobus, il fallait que tu trouves un appart qui était proche du service d'autobus.
Mm.
Là, à cette heure, dans mon quartier de Bourgeois, là, à Val-Bélair, à côté d'une maison où il y a un skidoo, sa galerie, je vois des chauffeurs de taxi là, avec des gens de mini-autobus. Là, comment ça s'appelle? Les flexibus?
Oui, oui, oui.
Ils vont chercher directement les résidents d'un quartier. Mais nous autres, on est obligés de se trouver des appartes ou des maisons aux abords des services d'autobus comme la 800, la 801.
Tu sais, maintenant, il faut que tu ailles où le bail va être le moins cher pour toi. Là.
Le monde se font livrer leur épicerie à deux coins de rue de l'épicerie.
Oui, mais là, on est bourgeois.
Que c'est que tu veux, je te dis?
Oui, mais on est bourgeois, on parle d'étudiants. Ces étudiants-là, là, ils cherchent le loyer le moins cher. Oui. Fait qu'ils vont pas y aller. Même... Ils peuvent plus, en fait, je pense, et j'ai la prétention de croire qu'ils ne peuvent plus y aller selon qu'est-ce qui va être autour de l'appart, mais plus, il est à combien.
Je comprends, mais marche, ciboire.
Là, tu penses qu'ils ont rendu trop bourgeois?
Je disais ça à ma belle-fille. Oui, oh, ben là, elle me disait, oui, mais ils viennent nous chercher chez nous, là, c'est super le fun. Oui, mais c'est des chauffeurs de taxi, là.
On gâche...
Non, mais si l'offre est là, je serais la première en dans mon adolescence à faire l'offre est là, je suis
c'est
là.
Ça. On gâche-tu qu'il y a des étudiants qui peinent à se payer un 2,5 qui se font livrer leur épicerie?
C'est clair.
Je gâche que oui.
C'est ça clair. Arrive, c'est sûr. Hey, oui, mais toi, tu dépensais bien dans les vinyles de Pink Floyd.
Notre gnochon du jour, connais-tu Paolo Galati?
Ben oui, on en a parlé dans l'actualité il y a quelques mois.
Lui, il est obligé de rembourser les contribuables pour des achats que la Commission municipale du Québec juge inadmissibles.
Hey, c'est pas vrai? Est-ce que vous avez ri? Parce que pour moi, c'est évident. Puis c'est évident qu'elle allait se faire pogner.
À,
là,
Laval,
Paolo, là.
À Laval, c'est la fin de la Costco-mania.
Écoute,
Ils vont perdre des chiffres d'affaires.
Nutella, du beurre d'épinards.
Du miel.
Du miel. Ouais. La gomme à mâcher, des ibuprofènes, de la soupe aux choux-fleurs, de la crème hydratante à vinaigre. Des graines de chanvre. Et là, lui, s'est fait rembourser ça par la ville. Puis il y avait aussi des fameux produits Apple. Là. Écoute ça. Il a acheté, pour son utilisation de travail, un ordinateur Apple, un MacBook. Il a acheté aussi un iMac et il a aussi acheté une Apple Watch.
Tout ça coûte cher, hein, en passant.
Mais le problème, c'est que la ville... Tout, je comprends. S'il a travaillé dessus, si ça peut être une dépense.
La ville a déjà des ordinateurs et des portables.
Mais lui, il aimait mieux la Apple. Oui.
Ah, c'est ça.
Tout était connecté. C'est pour ça qu'il voulait la montre aussi.
En plus, il voulait une montre.
Il faut qu'il voit cet excentré. C'est un maire.
Le monde aime ça fourrer. C'est incroyable.
Est-ce qu'on devient fourreur tout le temps? Est-ce qu'on devient crosseur à un moment donné? Est-ce que tout le monde a un côté... Il y a des psychiatres...
Je pense que tu t'en rends plus compte.
Il y a des psychiatres qui disent qu'on a tous un côté sombre. Fait qu'admettons qu'on essaie d'analyser des gens, pourquoi ils sont capables d'être aussi loin et d'avoir créé des tragédies et des horreurs. Mais ça dépend dans le contexte psychologique dans lequel on est. Puis on pourrait, il paraît être capable d'aller là à un moment
donné. Tout le monde le fait les dons.
Tu pensais ça?
Aussi
fait qu'on est tous crosseurs?
Oui, absolument.
OK. Mais moi, je suis pas.
Moi aussi, j'aurais de la misère à crosser le monde.
Moi, je me sens cheap s'il faut que je charge quelque chose. Mettons, je suis en voyage d'affaires. Je me sens cheap si je charge quelque chose. Mettons, mon dîner, alors que je m'aurais payé un dîner à Québec. Là.
Mais t'as jamais payé quelqu'un au noir, mettons. Là.
Moi, ça?
Ouais.
Très bonne question.
Tu vois-tu? On l'est tout un peu.
Écoute... Pour qu'il fasse son lit, je suis prêt à payer au noir tous les jours.
Très bon point.
Mais tu dis qu'on a tous un petit côté sombre, Pascal. Le tien, c'est...
Je cherche encore.
OK. Moi, je pense pas en avoir.
Moi, je pense en un, Yannick.
À part sur le poster de Samantha Fox en 1986.
Moi, je pense ceux qui disent « Je ne pense pas en avoir un, sont plus sombres qu'on pense. »
C'est vrai?
Oui. Ouais. Toi, Denis, ton côté sombre... Ah non, ça va être
long. Je l'expose constamment.
Son compte est sombre de 14h jusqu'à 18h.
Et présenter une gracieuseté de Boulevard.
Merci, Denis.
Salut.
Salut. Boulevard.